fait sensation chez Montmagny Nissan, Pocket Nissan et Saint-Nicolas Nissan.
Boulevard 102, la radio de Québec pertinente.
Écoutez ce qui se passe et ce qui se brasse dans l'actualité. Pendant ce temps-là, je vais aller voir ce qui se brasse sur Pornhub. Oh, il s'en brasse des affaires!
Qui vous rapporte la nouvelle de façon objective.
C'est la preuve irrévocable de l'existence du loup-garou en audio.
Si tu crois que j'ai
des invités percutants.
Ben oui, petit coup, t'es un peu trop. Commence, le martel. J'aurais peut-être un manager.
Une radio intellectuelle.
Moi, je suis scorpion.
Je suis capricorne.
Capricorne.
Je suis vierge.
Ça, on savait.
Facile.
une radio spéciale. Boulevard 102.1, la radio spéciale. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
Salut, bonsoir, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1, en espérant que vous ayez passé une belle journée. On parle de chasse et de pêche ce soir, et savez-vous quoi? Je peux pas faire cette émission-là sans voir le meilleur chasseur-pêcheur du Québec, le meilleur descripteur de chasse et de pêche du Québec. Son nom, c'est Martin Bourget. Il est aujourd'hui le président du groupe Aventure Chasse-Pêche. Salut, mon ami!
Salut, Yannick Marceau, comment ça va?
Très content de te jaser, puis tu sais quoi, aujourd'hui, j'ai eu une super de belle journée. Jasais avec Simon Laberge. Tu connais Simon Laberge, celui qui vend des maisons, courtier immobilier. Il a décidé de partir sur un trip il y a de ça quelques jours. Il s'est dit, je m'en vais en Russie, puis je vais aller voir comment ça se passe, le merveilleux marché de l'immobilier en Russie.
Ben non.
Puis là, il est en train de vivre un rêve avec la job qu'il a, c'est-à-dire de courtier immobilier. Puis en plus, ben, il a son entreprise. Mais tu sais, lui, il rêvait d'aller en Russie. T'sais. Il trouve que c'est un endroit qui est un peu inaccessible pour monsieur et madame tout le monde. Mais encore plus présentement où on se dit, ben la Russie est en guerre avec l'Ukraine.
Clairement.
Donc ça doit être un peu difficile d'aller en Russie. Ben c'est ça. Aujourd'hui, j'y parlais dans mon émission lui, il est en train de vivre quelque chose d'exceptionnel, puis ben, c'est un voyage d'affaires qu'il fait, puis il découvre plein de nouvelles techniques que eux, les Russes ont, que les Nord-Américains ont pas, puis il va exploiter ça au Québec, du moins les bons coups qu'il a appris. Puis ça, je peux faire un parallèle avec toi, tu sais, toi, ton trip, c'est de faire de la chasse et de la pêche. Tu pensais-tu un jour réaliser ton rêve d'avoir une entreprise, puis exploiter, je veux dire, tes rêves comme ça, de cette façon-là?
Hey, jamais de la vie.
Non.
Jamais de la vie. Je veux dire, j'avais pas fait mon deuil du 9 à 5 parce que je me trouvais. Tu sais, à un moment donné, pour un individu, travailler dans la vie, ça, pour moi, en tout cas, ça rime à trouver la meilleure façon ou la façon la moins emmerdante de gagner ta vie. Parce que t'échanges du temps contre de l'argent si tu vas dans le système standard. Déjà, je m'étais trouvé des voies pour pas accrocher au 9 à 5. Mais tu sais, c'est vraiment de fil en aiguille. Moi, je me suis ramassé à donner un coup de main d'une station de télé, puis faire de la narration, hop, une émission de télé pour finir dans chasse puis dans pêche. Mais jamais j'aurais pu penser que je finirais comme je le suis présentement, avoir acheté l'entreprise. Puis,
ben oui.
Puis tu sais, pas juste. Moi, ce que je trippe, là, ce qui me fait triper à côté, là, c'est que je vis pas juste moi un rêve. On aide des gens à propulser leur au travers de ça. On donne l'information, on s'est donné comme credo de chasser puis de pêcher comme la masse le fait, donner des exemples qui sont réplicables par les petites familles dans la réalité d'aujourd'hui, avec le 78% d'augmentation du prix des loyers puis le 73% d'augmentation des aliments, d'avoir des choses qui sont accessibles comme activité de plein air où est-ce que des gens vont pouvoir vraiment aller s'émerveiller devant la nature, qu'est-ce qu'elle a à offrir, puis de potentiellement devenir comme notre idéal à nous autres, c'est-à-dire de plus s'appeler des chasseurs ou des pêcheurs, mais des unités de gestion dans un certain sens qui font partie d'un écosystème. Puis ça, je te dirais que toutes les fois qu'il en pop un nouveau qui a commencé à faire de la récolte animalière pour sa famille ou à s'impliquer différemment dans le fond, mais on fait vivre des rêves à des gens qui n'auraient pas pensé faire ça dans le passé.
Mais je comprends. Mais dans ton cas, à toi, Martin, bon, tu t'es impliqué dans une station de radio qui était locale. Est-ce que tu étais, a priori, tu étais un chasseur-pêcheur? Est-ce que tu te connaissais dans ce monde-là?
Oui,
c'est ça.
Oui. Oui, écoute, je viens d'une famille qui chasse et qui pêche depuis longtemps. On a grandi grosso modo sur le bord d'un lac avec des oncles qui chassaient partout. La famille du côté de ma mère, en pavillon de chasse carrément dans Laurentides, plus précisément à Saint-Adolphe-d'Howard, pour ceux qui connaissent ce secteur-là, là, tout près de Morinite puis de Saint-Agathe des Monts. Oui, tu sais, ma marraine et son mari ont un chenil de chiens de chasse. Ils font du Springer anglais, là, qui est un chien flocheur, chasse le faisan puis le petit gibier avec ça. Mon père était un chasseur, un pêcheur, donc on allait à la chasse au petit gibier avec Pat qui chantait dans les sentiers parce qu'il disait que quand tu chantes, ça pique la curiosité, puis là, les perdrix sortent te voir.
Mais ça fait des beaux souvenirs, là.
Ben oui, définitivement. Ça a toujours été un peu le... Même une époque fin adolescence, début adulte, où est-ce que, honnêtement, je l'ai échappé solidement. Là. Puis on, sans rentrer dans les détails, là, mais consommation, puis pas de domicile fixe, puis etc. Puis c'est un de mes oncles qui m'a rattrapé dans un chemin où est-ce que, honnêtement, je m'en allais dans le mur très, très, très solide, puis qui m'a ramené sur l'île d'Anticosti, aller chasser, aller pêcher dans Zegbatskanelson. Puis ça, là, ça a comme ramené mon attention vers d'autres choses. Ça a comme ramené mon... Tu sais, la vie, ça dépend toujours de sur quelle chaise tu t'assis pour la regarder. Hein. Puis là, tu vas porter des conclusions. Puis après ça, toute ta vie, tu vas chercher à confirmer les conclusions que tu t'es formé. Mm-hmm. À cette époque-là, là, il y a eu l'intelligence de sortir la baguette magique puis de faire comme non, on va te lier différemment avec la vie, on va te ramener en forêt. Puis probablement qu'aujourd'hui, je serais creux si ça n'aurait pas été du plein air. Puis pas juste la chasse puis la pêche. Hein. Juste être en nature, ramasser des champignons, chercher des panaches qui sont tombés l'automne d'avant, aller se promener, ramasser des feuilles, faire pour les jeunes. Là, on le faisait quand on était au primaire, ils nous faisaient ramasser les feuilles. Tu sais, on faisait sécher ça dans un bottin téléphonique. Là, ça, pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'était un livre comme Google dans lequel il y avait tous les numéros de téléphone de la place. On faisait sécher les feuilles. Ouais. Là, on se faisait un livre où est-ce que érable à sucre, érable argenté. Ben, toutes ces petites choses-là qui n'est pas nécessairement de la récolte animalière, mais qui t'amènent dans le bois. Je veux dire, moi, ça a toujours fait partie de ma vie. C'est sorti de ma vie, mais c'est revenu juste au bon moment pour me redonner la bonne traque, ce contact-là avec la nature. Tu sais, on voit des gros toughs qui se prétendent mâles alpha. Ça reste qu'à un moment donné, là, avec tout ce qui se passe dans le monde, ton esprit vagabonde à gauche et à droite, puis il y a de quoi mêler à boîte à poux d'à peu près n'importe qui, le plus solide psychologiquement que tu peux être, d'aller grandir dans le bois avec la réalité, puis de te voir comment est-ce que tu es tout petit par rapport à tout un écosystème qui, ah tiens donc, tu te prends pour un grand mâle alpha, là, tout le monde a besoin de toi pour fonctionner, là, puis là tu rentres dans un écosystème où est-ce que, pas besoin de toi, man.
Non.
Tout se fait tout seul, c'est tellement rien dans le mélange.
Oui. Hey, deux choses, c'est drôle qu'aujourd'hui on soit obligé de toujours traduire quand on parle de nos souvenirs d'enfance. Quand je parle, mettons, d'un catalogue distribution consommateur à quelqu'un qui a 20 ans aujourd'hui, il n'a aucune idée de quoi je parle. Tu es obligé de dire, c'est comme Amazon, mais c'était directement sur un genre de catalogue que tu avais. Oui. Puis là, tu choisissais le jeu que tu voulais pour Noël, puis tu le commandais, puis tu pouvais aller le chercher sur place ou il te l'envoyait par la malle. Mais de mémoire, nous autres, on y allait sur place parce qu'il y avait un point de pick-up.
De ramassage,
voilà. Puis l'autre jour, j'étais obligé d'expliquer ça. T'sais. Au même titre que quand j'ai montré les fameux téléphones à cadran à mes enfants, ils n'avaient aucune idée c'était quoi. Je pense qu'on vieillit, Martin.
Légèrement.
Oui,
légèrement.
On vieillit.
Ah, ben tu regardes, je regarde mon plus vieux, là, il y a 16 ans, là, et la minute qu'ils sont loin de leur téléphone, puis là, c'est rendu épouvantable, ils ont 12 ans, ils ont des téléphones super évolués, là. La minute qu'ils sont loin de ça, puis ils ont besoin d'une connaissance ou d'un quoi que ce soit, là, à un moment donné, j'ai pointé, on a une encyclopédie dans le salon ici. Hey, ouais. Ça, c'est une autre affaire qui est rare. Ça, c'est comme Google, mais divisé dans 24 livres, classés par ordre alphabétique, tu sais. Et la minute qu'ils sont loin de le téléphone cellulaire, là, ils sont comme perdus, ils n'ont comme plus de repères. Là, parce que on s'est comme déprogrammé à la mémoire des numéros de téléphone, la mémoire de la géolocalisation, faire une route pour aller à une place, c'est là-dessus, chercher quelque chose, c'est le chum Google qui te le dit, la dépendance. Demain matin, là, faire un shutdown d'un mois, d'après moi, on se ramasse avec beaucoup de détresse psychologique en un claquement de doigts.
Ah, c'est clair. Mais tu m'allumes sur des choses, sur les souvenirs d'enfance que tu as avec tes parents et tout ça. Mais je suis en train de me dire, il me semble que je fais pas assez d'activités de ce type-là avec mes enfants. Fait que tu vois, ça aurait été positif de parler avec Bourget à soir. Il m'allume sur des affaires. Tu sais, je fais beaucoup d'activités avec eux en raison du hockey et tout ça. On a les mêmes passions, mais j'aimerais ça les amener en nature plus souvent. Je l'ai fait quelques fois, mais plus souvent pour accumuler ce genre de souvenirs-là. Puis, tu sais, une autre anecdote... nous autres, à chaque Noël, on se fait un échange de cadeaux entre chums, puis la thématique, c'est que c'est ça, Chris? OK? Fait que tu comprends que les cadeaux sont épouvantables, puis il y en a qui essaient de se dépasser année après année. Je me ramasse au marché aux puces Jean Talon, puis là, je fais le tour pour me chercher un « Que c'est ça, Chris? » dans l'espoir de gagner, comme parce qu'on a un trophée à la fin là, du « Que c'est ça, Chris? »
OK, là. Non, c'est sérieux, là.
Oui, oui, après ça, il y a des votes, là, tu sais. Puis je me ramasse avec un genre de tableau où il y a un poisson qui est dessus. Puis il est empaillé, il a tout été, il est lustré et tout ça. Puis là, je parle avec le monsieur, puis là, il me parle de ce poisson-là. Puis Martin, il avait une histoire à raconter concernant ce poisson-là. Il dit ça, c'est le premier poisson que j'ai pris avec mon grand-père quand j'avais 7 ans. Puis là, c'était à telle rivière, c'était en telle année. Puis il se souvenait de tout, puis il vendait ce fameux tableau-là avec le poisson et tout ça. Puis, tu sais, je trouvais ça hot, tu sais, qu'il parle de ces souvenirs-là, puis qu'il puisse... Oui. Parler de ce tableau-là avec un gros poisson dessus, mais de l'autre côté, tu sais, il vendait ça 5$.
Pedaille, OK. Peut-être la relation a mal fini avec celui-là qui a gagné le poisson, finalement, il voulait se débarrasser.
Je sais pas. Clean-up. Mais ce que j'ai trouvé hot, Martin, c'est le fait qu'il avait conservé son trophée. Oui. Puis sa mémoire se rafraîchissait quand il regardait ce trophée-là parce qu'il se souvenait de son grand-père. Il se souvenait des bons moments qu'il a passés avec son grand-père, puis il se souvient de sa première pêche aussi.
Moi, c'est. La naturalisation des animaux, c'est un sujet qui est quand même assez frileux, je vais dire ça comme ça, dépendamment en face de qui tu te retrouves, parce que pour certaines personnes, de rentrer dans une maison comme ici, si t'es pas prêt, là, puis tu t'en viens prendre un café chez nous, les animaux naturalisés, il y en a beaucoup ici. Puis les mentalités s'éloignent beaucoup du point où est-ce qu'on a commencé à faire de la naturalisation comme ça, puis du pourquoi. Hein. Puis tu sais, perpétrer un souvenir, comme tu le dis là. Puis surtout aujourd'hui, avec les taxidermistes avec lesquels on est rendu, qui font de la naturalisation et non pas de l'empaillage, comme on disait avant, on arrive avec une photo, à vraiment naturaliser l'animal pour qu'il ait vraiment l'air de s'y au moment où est-ce qu'on a récolté l'animal. Puis tu sais, tu peux voir ça de différentes façons. C'est sûr que, surtout, il y a beaucoup de femmes qui chassent maintenant, hein?
Ouais.
Mais surtout... L'homme caucasien de race blanche québécois, on va se le dire, on est une petite bébite qui a besoin de beaucoup de preuves de testostérone. Puis il y en a que c'est cette version-là, la raison qu'on garde les gros panaches. Il y a beaucoup l'immortalisation du moment où est-ce que tu vas te retrouver face à... Il y a une tête de chevreuil ici, donc un chevreuil naturalisé dans le salon qui est... Cette récolte-là rime avec la première fois où est-ce que... Moi et ma conjointe, on s'est dit « je t'aime ». C'est-à-dire, c'est morbide un peu dans une activité de récolte comme ça, mais c'est un beau moment sur l'île d'Anticosti où on l'immortalise. Puis de cette façon-là, tu peux carrément dire sans te tromper que tu célèbres la vie de cet animal-là, parce qu'on essaie de passer des notions, surtout aux jeunes qui commencent, hein, dans la responsabilité qu'ils se donnent par rapport à la chasse. « Hey, tu t'en vas retirer la vie d'un animal qui s'est battu contre des loups, des engelures, des tiques, des maladies, il a survécu à plein de choses. Puis toi, là, avec un petit bout de métal, là, tu t'en vas mettre fin à tout ça. Avec la décision d'être humain, ton complexe de Dieu, là, de juste appuyer sur, on va dire, sur la clenche, là, puis mettre fin à tout ça. Fait qu'il y a un respect à avoir dans la façon que tu vas t'occuper de ta viande, la façon dont tu vas traiter l'animal. Les photos là, avec les gars qui embarquent sur le dos des animaux là, pour tenir le panache, je veux dire, on essaye d'éliminer ça. C'est... célébrer.
Ah ouais, c'est mal vu maintenant.
Ben, on essaye de leur demander de faire attention. Si t'es dans la neige, par exemple, ben évidemment, une balle, ça perce un animal, ça fait du sang. Essaye de nettoyer, essaye de le tasser, essaye de...
Ah, je comprends.
Par respect pour l'animal, célèbre donc la vie qu'il t'a donnée pour que tu puisses te nourrir en l'immortalisant. Si c'est une photo, fais-le le plus proprement possible. Si c'est une naturalisation, fais-le le plus fièrement possible. Puis redonne un peu la notoriété à cet animal-là qui t'a donné la vie à avoir passé à travers tout ça pour que tu bouffes ou pour ton égo.
Mais c'est vrai que quand j'étais jeune, ceux qui revenaient de la chasse exposaient leur trophée, puis tu sais, il y avait encore beaucoup de sang sur le véhicule. Là. Tu voyais ça, il était comme exposé. Puis tu disais, c'est un peu morbide, mais maintenant, vous faites attention à ça, puis vous tentez de faire de la sensibilisation auprès des chasseurs.
De plus en plus. Respect dans la photo, de quand même. Parce qu'au départ... Au départ, on essaie aussi beaucoup de passer la notion de t'occuper de ta venaison là-dedans. Tu sais, on chasse l'orignal, là, si on recule il y a 15-20 ans, là, c'est quand même froid en septembre quand on commençait à chasser l'orignal. T'as beau croire au changement climatique ou pas, là, moi, quand je rentre le 15 septembre maintenant dans le bois, là, on est en gougoune puis il fait 28 degrés Celsius. C'est pas la même chose. Ta viande, du moment où est-ce que tu mets... Tu sais, tolérerais-tu de mettre un steak sur ton comptoir pendant 2 jours et le manger après?
Non.
OK. Bon, ben ton orignal, c'est la même chose. Là, tu as retiré la vie d'un animal, tu as une carcasse qui tombe par terre parce que c'est rendu une carcasse, c'est plus habité par de la vie. Tu as récolté ton orignal, tu arrives sur place, puis là, ton but, c'est de récolter cette venaison-là pour nourrir ta famille. La rapidité, puis l'agilité ou le savoir avec lequel tu vas t'occuper de cette viande-là témoigne ou demande un minimum de respect pour un animal à qui tu viens d'enlever la vie. Fait que oui, on essaye d'amener le plus possible vers cette espèce de respect-là, puis je pense qu'on l'a, c'est pas moi puis Kate, là, c'est un ensemble d'animateurs puis de nouvellistes dans le domaine de la chasse puis de la pêche qui essaient d'amener vers ce respect-là qui est, c'est pas un morceau de viande, c'est une vie sur quatre pattes que ouais. T'as pris la décision de retirer.
Puis en même temps, peut-être qu'en agissant de cette façon-là, Martin, ça va amener des plus jeunes, que ce soit des gars ou des filles, à dire « Ah, ben, crime, finalement, la chasse est respectueuse de l'environnement. » Même si vous êtes très respectueux, quand on le voit sur photo, des fois, on peut pas nécessairement le savoir, mais si on voit justement qu'il y a moins de sang, qu'il y a un plus grand respect de l'animal qui vient d'être abattu, peut-être que les gens seraient portés à y aller peut-être un peu plus vers la chasse et la pêche, là.
Ben, au moins, je dirais d'ouvrir le dialogue puis d'ouvrir l'esprit des gens ouais. À écouter les chasseurs qui font comme « Non, attends un peu, là. On chasse à l'intérieur où on récolte des animaux,
ouais.
À l'intérieur d'un plan de gestion qui est prescrit, qui tient en compte les populations, les dénombrements femelles, mâles, puis on a des limitations dans nos récoltes, puis on a aussi des... Cette année, c'est-tu un mâle, c'est-tu une femelle, c'est-tu un, c'est-tu deux, c'est tout établi. Fait que ton chasseur se ramasse comme un outil de gestion faunique si le plan de gestion est à propos, là, on va se le dire, parce que d'un fond, on trouve que c'est un petit peu arbitraire de la façon dont c'est fait, là. Mais dans un plan de gestion qui est à propos, ton chasseur, c'est un gestionnaire, puis on a plusieurs exemples. Là, tu vois, si vous voulez faire une petite recherche, là, Pennsylvanie, Penn State University, qui est passé d'un des pires états pour le cheptel de serre de Virginie aux États-Unis, ils ont décidé à un moment donné de remettre les chasseurs comme outil de gestion là-dedans. C'est rendu un exemple planétaire sur la qualité et la santé du cheptel là-bas, parce que tu ne peux pas laisser aller. C'est comme, je me souviens pas si c'est avec toi qu'on disait à la radio, oui, je pense que c'est avec ta co-animatrice, justement. Prends 75 plants de tomates, mets ça dans ton jardin et pas occupe-toi-en pas. Ça va pourrir, tu n'auras pas de tomates, tu vas avoir de la prêle, tu sors de l'affaire. Il y a une certaine quantité de récolte qui doit être faite puisque les prédateurs n'ont plus toujours accès au cheptel de chevreuil. Fait que l'autorégulation ne se fait plus parce qu'on a fait des rues qui les séparent et des villes qui les séparent. Fait qu'il y a un minimum de récolte qu'on doit faire dans les cheptels de serre de Virginie pour ne pas se ramasser avec un surnombre qui va mourir de faim, de maladie, comment est-ce qu'on dit, donc cross-contamination. Parce qu'ils sont trop nombreux, donc les maladies vont se passer beaucoup plus rapidement. Il y a une perte de capacité.
Parce qu'il y a trop de frères, de sœurs et de cousins-cousines dans la place.
Exactement. Ouais, fait voilà. Tu développes des tares génétiques. Fait qu'il y a un minimum de récolte qui doit se faire. Maintenant, il faut ouvrir l'esprit à tout le monde pour que les non-chasseurs comprennent ce minimum de récolte-là qui est comme nécessaire. Puis à ces chasseurs-là, pour leur induire le respect qu'ils doivent porter à l'animal. Puis ce que tu parlais tantôt des bêtes sur les véhicules, est-ce que tu savais que fut un temps que c'était obligatoire? C'était une loi?
Ah oui, je savais pas.
Tu devais rendre visible en tout temps et identifiable. Donc, est-ce que c'est un mâle, est-ce que c'est une femelle, ta récolte? Ben, ça part de là dans le temps. T'sais. On dit souvent, ah, c'était des barbares. Non, c'était obligatoire à ce moment-là.
Ah oh, ouais. Hey, je savais pas. Hey, avant de passer au prochain sujet, j'ai un message pour toi. C'est Jonathan. Oui. Jonathan est en pré-retraite. J'ai changé son nom parce que c'est un gars qui a beaucoup d'entreprises à Québec puis il est tombé sur notre chronique où on parlait de la fameuse Starlink. Donc, il était à pré-retraite puis lui, il allait jamais à son chalet qui est situé dans le nord du Québec qui est off the grid. Donc, il n'y a pas d'Internet. Puis, comme il est en pré-retraite, ses entreprises sont tous actives actuellement, ben lui, il a besoin régulièrement, tous les jours, d'avoir un contact avec son bureau. Et à partir du moment où tu as parlé de Starlink, Martin, il s'est informé et aujourd'hui peut passer tout le reste de sa vie, bien qu'il descende de temps en temps pour des meetings à Québec, là, il descend en hélicoptère pour te dire à quel point il a plus peur de la fin du monde que de la fin du mois. Là. Donc, lui, il monte chez eux dans son chalet en hélicoptère, puis maintenant avec Starlink, il était pas au courant que ça existait. C'est capoté quand même, hein?
Ça change les vies.
Puis il nous a écoutés, puis il t'a entendu parler, bon, du fait que quand toi, t'es dans des endroits un peu plus éloignés puis que le téléphone ne pogne pas, ben, t'es sur Starlink, puis ça fonctionne bien. Puis aujourd'hui, ben, il peut se permettre d'être un peu moins à Québec puis plus d'être dans son chalet dans le nord du Québec avec Starlink. C'est donc belle fun.
Ben, c'est une bonne nouvelle. Puis tu sais, ces technologies-là, puis c'est, j'étendrais sur ces services-là. Parce que, prends par exemple, c'est bon, il y a Air Medic, Hélico Secours, puis il y a une couple de compagnies comme ça aussi où est-ce que tu peux acheter des cartes de membres. Si tu as un téléphone satellite ou encore Starlink, s'il y a quelque chose, ben, tu peux appeler. Ça l'a permis à beaucoup de personnes qui commençaient à avoir des premiers signes de problèmes cardiaques, des phlébites, des ci, des ça. Puis, madame ou monsieur ne veut pas que madame ou monsieur aille dans le bois parce que c'est trop risqué, ou ils se retiraient plus de bonheur, à prolonger leur carrière en plein air, soit, que ce soit chasse, trappe, plein air, observation d'oiseaux, peu importe, avec cette confiance-là que s'il y a quelque chose dans un certain temps donné, ben, il y a un hélicoptère qui peut être déplacé pour aller chercher la personne qui est en danger. Il y a des gens qui ont carrément racheté des quatre roues, racheté un petit chalet, etc.
Ouais.
Parce que les nouvelles technologies et les nouveaux services nous permettent de partir avec une quiétude qu'on n'avait pas avant. À part les signaux de boucan, avant, c'était dans le fin fond de, je ne sais pas moi, Natashquan, au nord de Natashquan, puis il se passait de quoi? C'était bonne chance, mon Jack. Là. Aujourd'hui, bien, t'es aussi proche que le bouton urgence sur le bord de ton spot. Spot qui est une technologie aussi, genre de petit appareil avec lequel tu peux texter par satellite. T'as un bouton urgence là-dessus qui te géolocalise, qui envoie les services d'urgence. T'as ce bouton-là sur la majorité des téléphones satellites maintenant aussi. Puis Starlink fait partie de la nouvelle famille de produits qui nous permet justement de... Tu sais, on a fait un live ensemble. J'étais sur Starlink dans le fin fond de je sais pas trop où est-ce que ça pognait pas. C'était comme là.
Je pense que c'était un petit peu plus loin que Charlevoix.
Oui, exactement. Ouais, on était à la radio ensemble sur l'heure du midi.
Exact.
Ça rentre comme l'Internet à la maison.
Oui, mais c'est ça. Lui, juste pour te dire, parce que son courriel était quand même assez long, là, mais de la façon dont il était patenté, il y avait 4-5 iPads sur lesquels il se téléchargeait des films et des séries. Après ça, il embarquait dans son hélicoptère et partait pour une semaine, deux semaines à son chalet dans l'espoir d'avoir assez de backup pour pouvoir occuper ses soirées. Parce que le jour, tu peux t'occuper comme tu veux dehors, il fait clair, mais le soir, tu es à la maison puis sur le bord d'un feu tout seul ou avec sa conjointe, des fois ça peut être long.
Maintenant, il y a Netflix ou tout autre site intéressant à sa portée.
C'est ça. Puis là, il dit hey, tu sais quoi, à cette heure, j'ai tout. Je suis capable de travailler à distance, j'ai Internet. Je me casse pas la tête. Fait que c'est une super bonne nouvelle. Lui, il avait entendu parler de Starlink, mais il savait pas que c'était adapté pour le Québec. Puis ça fonctionne bien là où il est. Fait que, t'as fait un heureux, mon homme. Puis ben, en fait, t'as contribué à la richesse d'Elon Musk sans le savoir. C'est très cool. On en est rendu où présentement pour ce qui est de la chasse et de la pêche? Là,
là on vient de sortir du gros pic de l'Orignal. Surtout le secteur du Bas-Saint-Laurent, là, même jeudi, là, si je ne me trompe pas, c'est la dernière journée dans ce secteur-là. Puis là, on rentre comme dans le cerf de Virginie, donc le chevreuil. Puis tu as en même temps une chasse qu'il ne faut pas oublier, qui est présente depuis un certain bout de temps, puis qui est très pratiquée par les Québécois, puis très présente dans la culture des Québécois, qui est la chasse au petit gibier. Fait que présentement, tu as énormément d'adeptes qui sont à la bécasse, à la gélinotte, au lièvre d'un côté, ils sortent de l'Orignal, là, ils sont en train d'aller réactiver, si ce n'est pas fait, ils devraient être en train de le faire, en train d'aller réactiver leur site de nourrissage pour le cerf de Virginie, ou encore, là, évidemment, les salines aussi, parce qu'on les stations minérales, on essaie d'avoir le plus de minéraux possible disponibles sur place. Donc, ils sont en train d'aller réactiver. C'est le temps d'aller, si vous ne l'avez pas fait, si vous n'avez pas de caméra de chasse sans fil, donc, avec cellulaire ou si ça ne pogne pas où est-ce que vous êtes, d'aller consulter vos cartes sur vos caméras. C'est la grande oubliée, ça, souvent. Tu n'es pas dans le bois, tu essaies d'interpréter ce qui se passe, tu vois des traces alentour du tas de pommes, tu ne sais pas où est-ce que ça s'en va. De positionner quelques caméras qui vont te permettre de comprendre les déplacements de ton gibier puis de refaire tes stratégies de chasse, littéralement, en considérant le déplacement. Parce que là, on est dans l'époque où est-ce que on le vit à tous les années. On a 250 messages par jour qui rentrent. Martin, je m'en vais à la chasse bientôt. Là. Il y avait des box sur mon spot. Là. Ils ont comme tout disparu. Oui, puis ça va être de même à tous les années. Dans le temps du rut, les box changent leur comportement, ils changent leur route, ils changent la façon de se déplacer énormément. Puis, il ne te laissera pas de message puis il ne t'enverra pas de mémo.
Mm-hmm.
C'est à toi, le chasseur, dans la game qui confronte lequel des deux va gagner à la fin de la saison. Va-tu revenir avec de la viande ou lui, va-tu repartir avec un sourire? D'aller interroger qu'est-ce qui se passe sur ton territoire. Penche-toi le nez un peu, regarde au sol. les traces. Regarde les arbres, les frottages de panache quand ils passent pour aller vers leur site nourricier ou encore leur dodo. Puis dans ce temps-ci de l'année, là, les bocs ils ont pas mal tendance à faire dortoir-manger. Dortoir-manger. Ben, généralement, ils ont toujours une trail aller puis une trail retour qui sont séparées.
Ils dépensent le moins d'énergie possible?
Le moins d'énergie possible. Ils vont plus. Ils vont, ben, pas plus, parce qu'ils sont encore présentement sur les sites nourriciers, les bocs, mais ils commencent à quitter les sites nourriciers tranquillement, pas vite. Ils vont se bourrer de protéines le plus possible, donc va être gagnant celui qui a choisi une nourriture qui, en très peu d'efforts, va ramener beaucoup, beaucoup de protéines. On va penser aux moulets, par exemple, soya, les moulets soya et tournesol qui sont excessivement intéressants. Uh-huh. Les moulets du chum monette qui ont des noix dedans, qui vont avoir des acides aminés. Très peu d'efforts, beaucoup de protéines, puis le bas qui part après. Ils sont encore sur nos sites nourriciers. Ils vont disparaître bientôt. Ils vont vraiment, vraiment faire la trail aller-retour. Le truc que je peux vous donner, qui souvent on l'oublie pour être capable d'identifier la trail aller puis la trail retour, c'est que les frottages sur les arbres dans la trail vont tout être du même bord. Fait que si vous faites face au frottage sur les arbres dans la trail, ben c'est le bas qui s'en va en face de vous autres. Il s'en va dans le même sens que vous autres. Okay.
Puis comment ça se passe une fois que la neige arrive, là, lui, le comportement de l'orignal, c'est quoi? Il essaie d'être à l'endroit... Mais est-tu toujours au même endroit ou quand il neige, il essaie de se faire une trace pour essayer de se trouver une porte de sortie?
L'orignal, c'est ce qu'il va faire beaucoup. L'orignal va se faire un chemin d'accès vers son ravage. Ils vont commencer à se regrouper. La chasse va être fermée à ce moment-là. L'orignal, le chevreuil, va être encore ouvert généralement dans les premières neiges.
Ouais.
Nos grands cervidés ont ça de particulier. Hein. Ils ravagent ici. Donc, ils se regroupent à un endroit précis. Fait que oui, on va les voir converger. On va voir. Ça, sur Anticosti, tu t'en rends compte en tabarouette. Les chevreuils le font. Là. Dès qu'il y a une couple de pouces de neige au sol, là, les trails hivernales commencent à apparaître. Ce qu'on appelle les sentiers migratoires ou les passes migratoires commencent à apparaître. Ici, ben, ils vont moins migrer vers un point d'eau, comme par exemple sur Anticosti. Ils vont plus migrer vers l'endroit où est-ce qu'ils ravagent. Fait qu'on va... Par exemple, dans le temps de l'orignal, voire du chevreuil à hauteur de la Zec de la Blanche en haut, de la Batticanelle dans le haut de Portneuf, puis tranquillement pas vite, tu vois, ça descend, ça s'en vient vers le sud tranquillement pas vite pour aller rejoindre leur site de ravage. Puis évidemment, ben là, on les perd encore plus de vue. C'est déjà que dans le temps du rut, tu les perds pas mal de vue. Quand ça commence à migrer comme ça, là, il y a certains territoires dans le haut de Portneuf où est-ce que ça ne donne pas grand-chose d'aller chasser là dans le temps de la chasse aux chevreuils parce qu'ils ont déjà commencé à merger plus vers le fleuve puis on les voit beaucoup moins. Puis c'est là où est-ce que la chasse devient plus rough parce que, tu sais, quand on va rentrer dans le rut, là, au chevreuil, un petit peu comme à l'orignal, il n'y a pas de solution magique ou miraculeuse. Ils sont en accouplement. Alors, tout ce qui est attrait sexuel, olfactif ou sonore, que ce soit, puis ça va être d'un bord ou de l'autre. Ou maintenant, on essaye de l'attirer en lui faisant croire qu'il y a une femelle qui est prête à être accouplée. Ou maintenant, on essaye de l'attirer par la confrontation en essayant d'y faire croire qu'il y a un mâle qui s'en vient y prendre ses femelles. Fait que dans un cas ou dans l'autre, soit qu'on fasse du rattling puis du grunt, ou encore qu'on fasse du bleat, le corps de la femelle, avec des urines de femelles. Puis aujourd'hui, les phéromones qui sont rendus synthétisés en laboratoire, qui sont disponibles dans les urines, ben, on va jouer une game qui est vraiment une game sexuelle pendant le temps du rut. En attendant, pour l'instant, lâchez pas vos sites nourriciers.
Okay.
C'est-à-dire que s'il y a de l'achalandage, ouais, le bas qui est plus là, je ne dépenserai pas de pommes. Non. Il y a une chose qu'il faut que tu comprennes. Il n'y a rien qui imite mieux une femelle qu'une femelle. Si présentement les bas sont plus sur ton site nourricier ou dans pas grand temps, là, ils vont sortir des sites nourriciers, là, continue à nourrir. Parce que la présence de femelles dans le secteur t'assure une présence de bas. Va jouer 20, 30, 40, 50, 100 pieds sur le tour de ton site nourricier, tu vas te rendre compte que tu as des traces de boc dans ce secteur-là. Le boc, lui, là, il fait... Ça, c'est Stéphane Monette qui me l'a appris. La technique en J. Il va, quand il spot quelque chose ou il va aller en quelque part, il va vraiment faire un grand J qui va lui permettre de remonter le vent, arriver en arrière de toi, puis te sentir et t'identifier. Alors, généralement, tu vas voir alentour des sites à pâté cette espèce de grande boucle-là que les bocs prennent. Regardez au sol. Identifiez les traces, placez une caméra, retirez-vous de là complètement. Le chevreuil comparé à l'orignal, ça a une grande chose qui les différencie énormément, à part la shape et le panache. Là. Un orignal, c'est balèze. Ça se promène, potoum, potoum, potoum. Michel Therrien, c'est du fun à dire qu'un chevreuil qui passerait chez le psychologue en sortirait probablement lourdement médicamenté. C'est un anxieux Écoute, un chevreuil, il pète, puis il fait un saut lui-même, puis il part à la course. Ça, c'est un chevreuil. C'est excessivement nerveux. On n'approche pas le chevreuil de la même façon que l'orignal. Quand vous avez placé vos caméras, retirez-vous. Allez-y le moins possible pour repérer les déplacements de ce grand boc-là, puis refaites votre stratégie. Votre stratégie sera malheureusement pas nécessairement dans une cache au chaud avec une petite chaufferette Martin. Elle va peut-être être d'un tas de broussailles puis vous cacher avec un filet ou avec un camo screen. Aujourd'hui, avec les camo screens, on peut se cacher à peu près n'importe où. C'est des genres de filets portables, hyper pliables. Puis c'est un genre de filet que tu vois au travers, mais vu que toi, tu es proche puis dans l'ombre, on te voit pas de l'autre sens. Ça permet au chasseur, justement, quand il va avoir déterminé où est-ce que le boc fait son approche pour aller remonter son vent pour sentir ce qu'il y a sur place, de se cacher à l'extérieur de la ligne des vents dominants, si le chasseur a fait sa job, d'utiliser des micro-appâts, une petite poignée de moulée au sol pour provoquer des arrêts stratégiques par le boc, puis là, aller faire sa récolte. Mais il va être face au vent, caché avec un camo screen, que ce soit à l'arc, à l'arbalète ou à la carabine, caché carrément dans un tas de broussailles. Vous allez avoir le derrière dans l'eau. Mais si vous visez les bocs matures, c'est comme ça qu'on s'y prend pour les bocs matures.
J'aime ça. Mais ce que je retiens, Martin, c'est que plus dans l'endroit il y a des femelles, plus autour il va y avoir des mâles. Donc, si j'étais propriétaire de bar, il y a un bar open pour les filles pour les attirer, puis les gars, bon, on leur charge 20$. Mais je pense que ça s'était déjà fait dans le temps. Hein. Je pense que c'est pas juste dans le merveilleux monde animal que ça se passe. Les propriétaires, dans le temps, ils ont essayé ça aussi, puis ça fonctionnait. Là.
Absolument.
La chasse était meilleure.
Ben oui, la chasse est meilleure dans ce temps-là, c'est sûr.
Puis pour ce qui est de la pêche, on en est rendu où?
La pêche est encore très active. On revient, nous autres, d'ailleurs, là, on parlait la semaine passée du Nouveau-Brunswick. Mais au Québec aussi, il y a encore en masse de pêche. Le soie, le doré, tous les prédateurs, là, le mosquit, le brochet, c'est le temps présentement là, de ces bébites-là. Là. C'est le temps de les pêcher. Ils sont en grande activité. L'esturgeon est encore très actif. L'achigan est encore très actif. La truite est fermée, par contre. À l'exception de certaines zones dans le secteur, par exemple, justement dans le secteur de Charlevoix, qui ont des lacs qui sont ouverts pour la pêche d'automne. Ça, si vous en trouvez, là, ben, tu sais, je te parlais, on était à Pauvoirie-Baie-Sainte-Catherine quand je te parlais la dernière fois, puis eux autres ont la pêche d'automne, justement. Là, tu pêches à la truite sur un lac avec le couvert automnal dans Charlevoix avec les montagnes, c'est splendide. Mais sinon, là, toutes les espèces de fleuves, entre autres, là, brochet, achigan, doré, esturgeon, un petit peu plus haut dans le fleuve, dans le coin de Montréal et dans la Saint-Maurice, vous allez trouver aussi du masquinongé en masse, lac frontière en haut. C'est encore tout ouvert, ça. Puis je dirais que la seule différence cette année puis l'année passée, on vit quelque chose de particulier sur le fleuve à hauteur de Québec. Généralement, on est dans le pic. Il y a du doré à côté d'embarrure. Présentement, nos guides qu'on voit généralement en face de Québec se déplacent à la hauteur de Gentilly puis dans ces coins-là. Le doré a comme fait une montaison. L'année passée, ça a fait la même chose. Les gars, ce qu'ils nous rapportent, c'est que présentement, dans le fleuve, à la hauteur de Québec, ils attrapent principalement du petit doré noir. Mais le doré jaune, puis même le bar rayé, qu'on cible pas, mais qu'on prend accidentellement, c'est comme déplacé plus haut. Là. Secteur de Gentilly, ces coins-là. Fait que le matin, là, ils font une bonne ride là, pour aller mettre leurs clients à l'eau dans ce secteur-là pour pêcher. Mais sinon, si vous êtes prêts à faire un petit peu de route dans ce secteur-là, il y a du poisson en masse. Puis
Gentilly, c'est à quoi? À peu près une vingtaine de minutes de Trois-Rivières?
À peu près.
Un petit peu avant, OK, je comprends.
À peu près. Fait que, tu sais, dans ce secteur-là, il y a beaucoup d'activités, secteur de Montréal. Évidemment, tous les lacs en haut, Saint-François, Saint-Louis, tous ces lacs-là, il y a encore beaucoup, beaucoup d'activités dans les lacs. On voit encore beaucoup de bateaux à l'eau. Le bass est encore, donc la chigan est encore très actif. C'est une des belles saisons pour faire de la pêche en top water, qu'on appelle. Donc, on va pêcher avec des leurres qui sont des leurres de surface pour être capable de jouir visuellement de l'attaque du poisson en surface qui est hallucinante si on parle de bar, pas de bar rayé, excuse-moi, mais d'achigan. Non, je dirais surtout l'achigan puis le brochet en surface. Le doré, lui, le doré, il est photosensible un peu. Le doré va toujours un peu plus creux quand il fait clair, puis il va revenir vers moins creux quand il fait noir le soir. C'est pour ça que le soir, souvent, qu'il y a des cageux puis etc., à l'endroit de Québec, sont très payants parce que le doré s'approche plus de la berge quand il fait noir.
OK. Question qui m'avait été posée aussi lors de la dernière chronique. L'eau salée, est-ce qu'elle est arrivée à la hauteur des ponts ou est encore à peu près à la hauteur de l'île d'Orléans?
Je n'ai pas la réponse à ça. Faudrait prendre un densiomètre puis aller prendre la mesure. Honnêtement, je ne sais pas si ça a monté jusqu'au pont. Aucune idée.
Okay. Puis qu'est-ce qui fait ça, hein? C'est que l'eau salée prend de plus en plus de place?
J'aurais de la misère à te répondre parce qu'on a tellement plein de facteurs sur lesquels on peut mettre le dos. T'sais, qu'est-ce qui fait que de l'eau salée rentre dans de l'eau douce? C'est pas du sel pour du sel. La densité nominale de l'océan, c'est si je ne me trompe pas, c'est 1024 en termes de densité. C'est quand même beaucoup de sel dilué. Là. Fait c'est sûr que par osmose, au fur et à mesure que le climat se réchauffe et que l'eau se réchauffe, ben, on va observer un pouvoir de dilution qui est beaucoup plus grand dans les eaux qui sont plus chaudes, évidemment. Alors, on diminue la possibilité de diluer de l'oxygène puis du monoxyde de carbone, mais on augmente la capacité de diluer des minéraux. Donc, c'est sûr que quand on observe une augmentation de la chaleur de l'eau, ben, veux pas, tu as plus de minéraux qui se dissoutent. Donc, ta nappe d'eau, l'eau saumâtre qu'on appelle, qui est le mélange entre ton eau douce et ton eau salée, parce que ton eau douce elle a un facteur de concentration beaucoup plus basse que ton eau salée, puis tu as un entre-deux. Cette eau saumâtre-là, bien, elle se déplace et elle monte un petit peu plus vers l'eau douce parce que tu as cette capacité de dilution-là. Je dirais que le côté climatique, réchauffement de l'eau, est le principal qui va jouer au niveau de la dilution du sel puis de la montaison.
Okay, tu vois, je regarde le plan, là, ça serait encore entre l'île d'Orléans et l'île aux Coudres.
Ce serait logique. Ce serait logique.
Pas,
je suis pas le même dossier. Je suis pas le même dossier parce que on va pogner les mêmes espèces même quand on est en bas de l'île d'Orléans. Ça n'a pas encore joué tant que ça sur la. Puis j'aurais de la misère à rapporter ça comme facteur qui causerait le déplacement du doré, puisque tu me confirmes qu'il est encore en même place.
Oui. Est-ce que, bon, on sait qu'il y a des poissons d'eau salée, on sait qu'il y a des poissons d'eau douce. Est-ce que, au fur et à mesure que l'eau salée descend dans l'estuaire du Saint-Laurent et s'amène vers Québec, y a-tu des catégories de poissons qui vont monter vers Montréal puis qui vont rester là ou bien il y en a qui sont capables avec le temps de transférer?
Bien, ils sont capables de tolérer le transfert de l'eau douce à l'eau salée pendant un certain temps, mais ils ne sont pas capables de le faire à long terme. Puis, tu sais, ça prendrait une adaptation d'espèces sur des dizaines de milliers d'années pour finir qu'à transférer en eau douce complètement. Par contre, tu as certains poissons qui sont capables de faire les deux. Est-ce qu'il y a des espèces macro-gasparo, des petites espèces de poissons fourrage qui vont migrer un petit peu plus vers le haut du fleuve au fur et à mesure que cette eau salée-là va migrer? Oui. Par contre, avant que ça soit rendu à hauteur de Montréal, là, on va dire que tes enfants vont faire des enfants qui vont faire des enfants qui vont faire des enfants. Là.
On verra pas ça.
Non, c'est ça.
Comme mon ancien beau-père me disait, quand il faisait de la construction, quand il faisait une toiture, puis ça allait pas comme il voulait, il disait « Je verrai pas ça de chez nous. » Ça voulait
Alors,
dire...
Alors, ça risque pas d'arriver.
Ça voulait dire « Je m'en occupe pas. » Okay.
Moi, dans le très peu d'histoire que j'ai dans le domaine de la chasse puis de la pêche, j'ai rien que 45 ans, là. On va voir des grands mammifères qui sont habitués de vivre en eau salée, monter en eau douce et être capable de tolérer de passer un bon bout de temps en eau douce. Il y a plusieurs petites espèces aussi qui sont capables de faire entre les deux. Et n'oubliez pas qu'il y a des espèces qui que leur thermoclime ou que leur idéal se situe dans l'eau saumâtre, donc entre les deux. Il y a vraiment des poissons d'eau saumâtre.
Ah oui. Okay.
Il s'agit de monter dans le golfe du Mexique pour voir les poissons des rivières qui vont vraiment aller se promener en mer. Le saumon grandit en mer puis va finir ses jours en rivière, en eau douce.
C'est vrai? Ben oui.
Ils ont une capacité d'adaptation qui est énorme. C'est le côté osmotique qui est excessivement dangereux. On m'expliquait un ichtyologiste, ça, c'est des gens qui vont découvrir des nouveaux poissons qui vont les décrire. M'expliquer à quel point, sur le plan nerveux, pour un poisson qui n'est pas habitué à soit une grande densité saline ou une faible densité saline, c'est douloureux de passer d'un à l'autre. C'est comme des chocs électriques, c'est un choc osmotique, tu sais, qui est quand même assez important. Fait qu'avant qu'on voit des poissons d'eau salée s'adapter à des eaux un petit peu moins salées puis monter, non, je ne crois pas à ça.
Non, je comprends. Hey, tu voulais nous parler de chasseurs généreux?
Oui, chasseurs généreux, c'est une initiative de la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs qui est là depuis, je crois, 6-7 ans, si je ne me trompe pas. C'est un système qui permet à un chasseur, lorsqu'il se rend chez son boucher, si son boucher est accrédité, boucher généreux. Donc, il fait partie du programme Chasseurs généreux. Puis, on peut en trouver la liste facilement là, sur le site Chasseurs généreux de la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs, de remettre une certaine quantité de ton orignal, de ton ours. Ils prennent même l'ours maintenant, mais ils vont faire cuire la viande avant de les remettre au moins bien nantis. Ça va être acheminé de ton boucher à ton organisme moisson local qui va le redistribuer dans les petits organismes pour que ça finisse chez les gens qui ont faim, qui n'ont pas de nourriture. Puis, j'ai souvent une pensée, tu sais, oui, la chasse printanière, on pousse chasseurs généreux, mais la chasse automnale, on la pousse encore plus parce qu'on n'arrive pas loin du temps des fêtes. On n'arrive pas loin du temps où est-ce que, là, les billes d'électricité vont monter. le bois, ils vont être obligés de s'acheter du bois, ils vont être obligés de s'acheter des vêtements chauds s'ils n'en ont pas. Fait que le budget diminue beaucoup chez ces familles-là qui sont dans le besoin. Fait que c'est un temps où est-ce que c'est crucial de donner accès à de la bonne protéine pour les enfants de ces familles-là qui sont en plein développement, ils ont besoin de protéines. Soyez généreux, trouvez un boucher généreux, puis donnez un peu de viande, ours, orignal, chevreuil, donnez de la viande qu'on puisse nourrir un peu notre monde. Ça fait aussi partie des valeurs qu'on essaie d'inculquer aux chasseurs, qui souvent, ils prennent comme cible facile les Premières Nations, mais les Premières Nations ont à nous apprendre en tabarouette sur la chasse de communauté qu'ils font, parce qu'ils nourrissent les leurs.
Mais tu sais, je veux dire, tu un orignal, là, ça fait combien de livres de viande, ça, une fois qu'il a été travaillé, là?
Ça peut fluctuer en tabarouette. Le dernier mois que j'ai récolté en quartier, on était tout près de 960 livres. Ce qui veut dire qu'une fois désossé, tu vas retirer à peu près peut-être 30 % de là. Fait que fais le calcul rapide, là, veut dire qu'on va chercher un 500 livres de viande à peu près.
Hey, 500 livres, je veux dire, tu peux pas manger ça chez vous.
Écoute, non. C'est-tu 500? C'est-tu 40 % Je pense que c'est ça. On va se dire un 400 livres de viande là, pour être un petit peu plus dans pile dans patente. Là.
Mais mettons 400, tu manges pas ça une année chez
vous? Non. Là, tu penses à ta famille qui est autour de toi, tu partages les frais de boucher parce que c'est interdit de vendre de la viande de gibier ici au Québec. Donc, totalement interdit. Tu partages avec ta famille, tu partages les frais de boucher, puis tu partages avec ta famille, ou tu donnes justement à chasseurs généreux pour que, de toute façon, cette partie-là de viande que tu donnes, eh bien, les frais de boucherie sont assumés par le système. Et ça s'en va à chasseurs généreux, mais tu ne paieras pas ces frais de boucherie-là. Et on connaît des gens qui donnent des animaux entiers. Ils font de la chasse de déprédation, par exemple, à l'ours, ou de la chasse de contrôle de population au cerf de Virginie.
Ouais.
Je me souviens, entre autres, sur l'île d'Anticosti, qui est un très bon exemple, parce que l'île d'Anticosti ont commencé il y a plusieurs années à monter ce qu'on appelle des exclos pour laisser les feuillus pousser. Puis lorsqu'ils nettoyaient l'intérieur de ces exclos-là pour réduire la densité de cerf de Virginie, bien, ils envoyaient ça toujours sur le continent aux organismes moissons. Puis à ce moment-là, c'est les animaux au complet. C'est le chevreuil au complet qui est donné pour les moins bien nantis. Là.
C'est incroyable. C'est incroyable. Puis merci beaucoup aux gens qui donnent à des gens qui ont moins la chance d'avoir accès à ce genre de viande-là. Puis je te pose la question comme ça. Dans les restaurants du Québec, jamais on nous offre de la viande d'orignal, de la viande de chevreuil. Est-ce qu'un jour, ça pourrait être accepté, ça? Est-ce qu'on pourrait avoir un élevage, mettons, d'orignal, un élevage de chevreuil? Ça va-tu venir? On va-tu en venir?
Le cerf, ça existe. Sauf qu'on utilise beaucoup le cerf rouge en élevage. Hein? Ouais. La viande de cerf que tu manges en restaurant, c'est le cerf rouge. Puis c'est vraiment un rapport d'efficacité énergétique, on va dire, entre qu'est-ce que tu as à nourrir comme cheptel versus la grosseur qu'ils vont devenir, puis la quantité de viande que tu vas donner, la tendreté, le goût de la viande, etc. Le gibier qui est choisi dans le cerf présentement en élevage, c'est le cerf rouge. Le wapiti aussi est choisi en élevage. L'orignal, on n'est pas capable de le faire manger ben en captivité. Au parc Omega, Michel Therrien avait ramassé un jeune veau orignal qui s'appelait Mickey Mouse. Mickey Mouse. Donc Mike, il a fait un jeu de mots. Ils ont réussi à le nourrir, là, mais c'est faut que tu coupes beaucoup, beaucoup d'arbres frais par jour pour nourrir des orignaux. Donc, ça serait dur. Puis la discussion sur est-ce que des chasseurs pourraient éventuellement vendre leur viande dans les restaurants a été mise sur la table à plusieurs reprises. Puis à cause du risque de braconnage pour aller chercher plus de viande, ben, ça a toujours été remis aux oubliettes, puis je te dirais que c'est peut-être pas une mauvaise chose. Faudrait vraiment comme émettre des permis d'abattage qui sont nullisés pour la viande dans un... Ça, déjà, on a de la misère à avoir des plans de gestion qui reflètent des inventaires aériens un petit peu plus larges. On demande, la FDCP présentement, il y a une pétition en cours, ils demandent plus d'inventaires aériens pour avoir un vrai plan de gestion qui tient compte des populations sectorielles. Fait qu'imagine mettre quelque chose comme ça en place, ça serait le Capharnaüm.
Mais en même temps, c'est weird parce qu'ailleurs, tu peux pouvoir goûter aux animaux qui sont autour. Là. Mettons, tu vas souvent en Afrique. Là.
Oui.
Tu sais, les fois où tu es en Afrique, quand tu fais de l'abattage là-bas, ben, la viande, tu la donnes à la population qui est en place.
Oui, ben, c'est un petit peu comme ce qu'on fait ici avec Chasseurs Généreux, ouais. D'un certain sens. Mais tu ne trouveras pas l'animal sauvage en vente à l'épicerie là-bas. Tu as énormément de fermes d'élevage, puis les animaux que tu as à l'état sauvage, eh bien, ils les ont en élevage aussi. Il y a beaucoup de fermes de chasse en Afrique
qui achètent leurs animaux. Mais ce n'est pas des chevreuils, là, mais il y en a ce type d'animal-là dans ce secteur-là. Puis est-ce que tu peux avoir ça au restaurant?
Tu peux l'avoir au restaurant, mais ils proviennent d'une ferme d'élevage. Ah, c'est tout simplement qu'ici, il faudrait mettre en place des élevages, par exemple, de cerfs de Virginie et d'offrir la viande de cerfs de Virginie. Mais je dirais que, c'est quoi le nom de la compagnie? Gibier Kennebec, si je ne me trompe pas. Kennebec ou Kennebec, là, quelque chose qui ressemble à ça, là, c'est un distributeur qui est justement spécialisé dans de la viande. Et ils ont de l'autruche, ils ont du kangourou, ils ont du cerf rouge, ils ont beaucoup, beaucoup de viande de venaison, de pas sauvage, mais de type qui pourrait se rapprocher des animaux de la chasse si on veut. Et c'est là, je te dirais que c'est ce qu'on peut le plus se rapprocher de la viande de chasse, hein, c'est au travers de ceux-là, ou les restaurants. Les restaurants, évidemment, avec le cerf, le wapiti, l'autruche, etc.
OK. Puis on y va avec l'opération panache maintenant. Qu'est-ce que c'est?
Opération panache, je te dirais, c'est un coup de maître de la part du service de protection de la faune. Tu sais, si tu recules dans le passé, là, pour les chasseurs, un garde-chasse, ça se cache en arrière d'une épinette puis ça l'attend pour te donner une étiquette. Tu sais? Alors que sur leur écusson, c'est protéger, servir, prévenir. Là, ils ont vraiment été avec le côté prévenir, servir. Ils ont mis en place une opération entre Kamouraska-sur-le-Lac et Gaspé. Donc, la zone de chasse numéro 2 qui prend fin jeudi cette semaine, pendant 7 jours, pendant la grosse zone où est-ce que presque la majorité, plus que la moitié des animaux, des orignaux, excuse-moi, dans la chasse à l'orignal sont récoltés dans ce secteur-là à toutes les années. Donc, il y a un achalandage de chasseurs qui est énorme. Ils ont déployé une centaine d'agents de protection de la faune entre les deux points, Kamouraska-sur-le-Lac et Gaspé, pour faire de la prévention, de l'intervention puis de l'information. Évidemment, dans 90 % des cas, les interventions se terminent avec une claque sur l'épaule, la remise d'un petit pamphlet, avec une sensibilisation pour utiliser SOS braconnage dans le cas où est-ce qu'on observe quelque chose qui n'est pas normal, soit un fait inusité dans la nature ou encore un individu qui ferait du braconnage. Évidemment, dans certains cas, ils ont dû appliquer la loi parce qu'ils sont tombés sur des individus qui, mal informés ou quoi que ce soit, étaient en infraction. Mais essentiellement, c'est 7 jours que ces agents-là ont passé sur le terrain à donner de l'information et souvent à aider à protéger les territoires dans ces secteurs-là en orientant mieux les chasseurs. Il y a des cas de braconnage dans tous les secteurs au Québec, mais quand tu te ramasses dans un coin comme ça où est-ce que la très grande majorité des activités de chasse sont concentrées dans le temps de l'orignal, bien évidemment, le service de protection de la faune veut être sur place pour faire ce genre de prévention-là, mais en même temps, serrer des mains pour, au bout de la ligne, se faire des amis dans les chasseurs, parce que les agents de protection de la faune, là, sont 300 au Québec. À 300, ils ne peuvent pas savoir ce qui se passe dans le bois.
Ah, puis tu sais, on se souvient des années 60, 70, 80, 90, où dans le bois, ça brassait en maudit. Ceux qui faisaient cette job-là, ils mettaient leur vie à risque parfois. Là.
Ah, des morts par balle, il y en a. Là. Ah, Je veux dire, il y a un mur des souvenirs. Là. Au collège, ici, à Duchesne, entre autres, là, il y a un endroit où est-ce qu'il y a des agents qui ont été... Puis justement, il y a une ou deux semaines, on a vu passer sur Facebook, là, en mémoire de tel agent qui a été tiré par balle à tel endroit, là. Ça existait beaucoup. Aujourd'hui, les agents sont sur le terrain beaucoup, beaucoup pour protéger, servir. Évidemment, eux autres, leur mandat, parce qu'oubliez jamais que c'est des agents de la paix comme un policier, ils ont juste un mandat qui est différent. Eux, c'est la protection, la mise en valeur de la faune et des milieux fauniques. Ça, c'est la loi qui protège, puis ils sont là pour protéger la faune d'elle-même et de l'individu. Hein? Donc, généralement, ils sont là pour protéger l'orignal, pas toi. Et c'est normal, puis ils sont là pour appliquer la loi. On va souvent entendre des gens dire... « Ouais, mais ils ont scrappé ma chasse, ils sont rentrés en plein jour sur mon territoire. » Ouais, mais ils appliquent une loi qui se passe dans le jour, pendant tes activités de chasse et de pêche. Okay. Généralement, ils ne passent pas voir la nuit si tu pêches la truite en ruisseau. Là. Ils s'en vont là pendant que tu es en activité pour appliquer la loi. Puis de plus en plus, on les voit faire beaucoup d'informations. Je parlais de SOS braconnage. Puis ça, c'est super important à retenir. SOS braconnage, c'est un numéro qui est magique. Quand vous voyez quelque chose, appelez, laissez un message. Attendez-vous pas que l'agent vous rappelle le lundi. Généralement, il va faire du travail en amont sur la plainte que vous avez logée pour voir la crédibilité de tout ça, est-ce qu'on peut agir, etc. Et surtout, si vous voulez aider la faune puis aider les agents de protection de la faune, appelez pas s'il y a un renard qui passe sur votre terrain ou s'il y a une moufette qui passe en rue. Là. Elle va juste s'en aller. C'est un numéro de téléphone pour signaler des infractions probables. Pourquoi ou une problématique faunique.
Pourquoi il y en a juste 300 à la grandeur du Québec, des agents de la faune? C'est-tu parce qu'on a de la misère à en trouver ou c'est juste que les budgets font en sorte qu'on en a 300 à payer puis on y va?
Il y a été question de budget là, dans les derniers mandats avec les ministres avec lesquels on parlait. Malheureusement, le nouveau cabinet qui est en place, on n'a pas parlé avec eux autres encore, on n'a pas eu de nouvelles d'eux autres encore. Est-ce que c'est encore le côté budget ou c'est les cohortes d'agents qui ne sont pas assez nombreux? Je ne saurais pas te dire aujourd'hui s'en est rendu où, mais ça a toujours été un peu une question de budget. Il y a toujours eu une revendication pour avoir plus de budget, pour avoir plus d'agents de protection de la faune.
OK. Écoute, j'ai deux sujets avec toi. Il y en a un qui va peut-être... ouais, on va y aller avec ce qui va peut-être faire plus plaisir aux producteurs de contenu là, que vous aidez présentement. On écoute Martin Bourget. On trouve que parler de chasse et pêche avec Martin Bourget, c'est intéressant. On sait qu'il y a des, plusieurs plateformes. Il y a... Toi, tu as parti quelque chose avec ton, ta coactionnaire, Kate. Oui. Vous avez décidé d'aider les créateurs de contenu.
Bien, définitivement. Il y a une tonne de jeunes qui se mettent, de jeunes et moins jeunes, qui se mettent à se produire eux-mêmes. Quand ils vont dans le bois, ils se filment. Avec des caméras, des GoPro, ils prennent des photos, ils font des blogs, ils font des podcasts. Puis, ces jeunes et moins jeunes-là veulent un jour, tu sais, en faire plus, aller chercher peut-être un commanditaire, ou se faire voir par les gens, puis ils sont sur leur plateforme YouTube de leur côté, puis ils essaient de pousser parallèlement à nous autres. Au début, on les voyait comme de la compétition. On disait, hey, ils vont aller chercher des commanditaires un jour, ces gens-là. Puis, un moment donné, on s'est regardé le nombril dans notre mission. On disait, on veut toujours bien faire rentrer plus de jeunes dans le bois, nous autres, puis protéger à fond. Non. On va prendre ces producteurs de contenu-là, on va leur faire une place sur la plateforme d'aventure chasse-pêche sur laquelle il y a des millions de personnes qui viennent par mois. Puis on va propulser leur contenu, mais on ne leur bouffera pas leur vue. On va créer quelque chose qui permet aux gens d'aller gratuitement voir les vidéos de centaines de producteurs de contenu au travers du Canada puis du monde, gratuitement. Puis quand ils vont aller écouter la vidéo, bien, si Yannick Marceau a une chaîne YouTube, puis il vient, vous venez écouter la vidéo d'Yannick Marceau sur mon site, bien, c'est son YouTube qui va bénéficier de la vue. Donc,
ah, je comprends.
On va vraiment, on va les mettre de l'avant, mais on ne va pas les mettre de l'avant en, par en arrière en ramassant le trafic. On leur laisse le trafic. On veut les aider à se mettre de l'avant. Puis ça, ça l'a... Honnêtement, ça l'a motivé beaucoup de jeunes créateurs de contenu qui pensaient travailler dans le vide, dans le sens où est-ce qu'ils faisaient un fichu de bon contenu puis ils se sous-estimaient dans le contenu qu'ils faisaient. Non? On a vu des jeunes là, qui font comme « Mais tabarouette, on connaît des caméramans d'expérience qui font pas la moitié de ce que tu fais. Ouais, mais j'ai pas tant de vues que ça. Je pensais arrêter. Non, 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 non. Viens, on va te propulser. » Là, ils se rendent compte quand on les met sur une plateforme où est-ce qu'ils sont vus. C'est comme d'ouvrir un restaurant dans le fond d'un rang puis pas de mettre de pancarte sur le bord de la route. Tu n'auras pas personne qui va manger, venir manger la meilleure poutine au monde. On les met sur un podium où est-ce qu'ils peuvent être vus. Là, ils ont la reconnaissance du public. Les gens leur laissent des commentaires. Les gens voient leurs vidéos. Puis, c'est allé assez loin dans les commentaires qu'on a reçus des auditeurs ou des téléspectateurs qui ont trouvé les créateurs de contenu qui, en passant présentement, ajoutent plus d'une centaine de vidéos par mois sur le site web. Là.
Wow.
C'est quand même majeur.
Oui, puis c'est bien. Donc, c'est bien que vous pensiez à eux. Puis en fait, vous pensez à eux, mais vous pensez aussi aux amateurs de chasse et de pêche qui vont avoir d'autres choses à découvrir. Puis ben, je veux dire, ça vient de vous autres et c'est tout à votre honneur. Comment on fait pour communiquer avec vous autres, advenant le cas où je suis un spécialiste de chasse et de pêche, je crée mon propre contenu puis j'aimerais être vu. On communique avec vous autres?
Bon, tu vas sur la page d'Aventure Chasse-Pêche, il y a un onglet créateur de contenu, puis il y a carrément un coin qui dit devenir créateur de contenu avec un formulaire. À partir de là, là on te crée un peu un, voyons, une page comme sur Facebook, si tu veux. Donc, tu as vraiment ton compte à toi dans lequel tu peux aller changer ta photo de profil. Ton profil, c'est ça. Un profil dans lequel tu peux aller changer ta photo de profil. Tu uploads tes vidéos toi-même ou tu mets les liens de tes vidéos YouTube toi-même. Tu écris tes descriptions toi-même. Puis là, tu vois, on va essayer de les motiver encore plus, ces créateurs de contenu-là, à venir s'inscrire et à promouvoir leur contenu. On met en place un grand prix de distinction producteur de contenu qu'on va annoncer bientôt. Là. On va faire une page de votation littéralement où est-ce qu'on va mettre que nos producteurs de contenu québécois parce qu'on a des producteurs de contenu au travers du monde. Là, ce grand prix de distinction-là, il donne accès aux producteurs québécois uniquement pour qu'ils se promouvoir auprès de leurs fans potentiels et qui se promouvoient entre eux pour aller chercher encore plus de vues sur leurs vidéos pour se faire connaître. Puis, au printemps, au retour en onde, dans l'émission, on va inviter les créateurs de contenu qui vont être gagnants, les premières, deuxièmes, troisièmes places, et on va présenter leur contenu vidéo dans l'émission. On va leur remettre leur prix à la télévision, question de les faire connaître. On veut prendre ces jeunes-là qui allaient quasiment lâcher la production de contenu parce qu'il n'y avait pas de gens qui les écoutaient, parce qu'ils étaient sur des plateformes qui tiraient moins, à leur prouver que ce qu'ils font, c'est de la Christie de bonne job, et il faut qu'ils continuent.
Oui, mais tu l'as dit tantôt, puis tu l'as bien imagé. On pourrait faire une autre image, tu sais, votre affiche qui parle de votre produit est directement sur le bord de la rue. Il y a 3-4 personnes par jour qui passent sur votre rue puis qui vont peut-être dire « Ah, ben tu sais, je vais aller voir ce que c'est que ce produit-là. » Tandis que toi, ce que tu dis, c'est « Regardez, voici une autoroute, puis le panneau qui va être sur le bord de l'autoroute va tellement être gros que nécessairement, avec tout l'achalandage qu'on a, il y a des gens qui vont cliquer sur votre produit puis qui vont découvrir à quel point c'est un bon produit, tu sais. »
Oui, puis le plus beau là-dedans, c'est que ça va vous coûter zéro.
Exactement. Puis ça va vous rapporter.
C'est ça. On va pas chercher, on va pas chercher la manne là-dedans. On va chercher une pérennité dans. C'est quasiment une assurance retraite dans le sens où est-ce que plus on a de gens qui produisent du contenu, plus on sensibilise de gens aux activités de récolte saines et usuelles, plus on amène de gens dans le bois, plus moi je suis assuré d'encore animer dans 5-10 ans parce que le domaine va encore exister.
Exactement. Puis les gens, ben, ils vont apprécier ce que tu as fait pour eux. Martin Bourget, président du groupe Aventure Chasse-Pêche, où est-ce qu'on peut vous voir, vous sentir, vous toucher, vous goûter?
Maintenant, à peu près partout, évidemment, à 21h sur les différents réseaux, Facebook, YouTube, sur les ondes de Télémag, vous allez trouver notre magazine en kiosque. Le nouveau sort présentement en kiosque à tous les 3 mois. On est rendu toutes les plateformes de podcasting, que ce soit Spotify, iHeartRadio, Google, Apple, etc. Évidemment, sur Facebook, super simple, écrivez-nous, on prend le temps de vous répondre. Bon, on a du fun à parler avec vous autres. Sinon, avec l'unique et l'excellent M. Marceau à la radio.
Une fois de temps en temps. Un gros merci, Martin. C'est toujours un plaisir. Salutations à la vraie star de ton émission, c'est-à-dire Kate. Qu'on apprécie tous, nous, les garçons.
Yes. Et bon, bonne soirée.
Allez, merci.
Allez.
Bye-bye. On fait une pause, on revient.
Marceau, le soir. Reg against le matin. Le matin.
Boulevard 102A.
Les gars, avez-vous des hobbies bizarres dans votre vie?
Des hobbies bizarres?
Ouais, tu sais, des fois, là, tu fais de quoi, tu sais, hein, je dois être le seul à faire ça.
Faudrait que j'y pense.
Ouais. Moi, j'en ai un. Moi, le soir, je lis des rapports annuels. Les gars de stats.
Ouais, c'est pas mal, ouais. Peut-être une obsession.
Pourquoi je sais pas,
ça me surprend pas non plus.
Les gars de stats. Dire que tantôt, on pensait que c'était une addiction au sport qui faisait qu'il était célibataire.
Ouais. Non, je pense qu'on vient de faire
rapport annuel. On vient de mettre le doigt sur la vraie affaire.
Excuse-moi, chérie, je vais aller me coucher. Je suis juste rendu à moitié de mon rapport annuel.
C'est ça, j'ai un rapport annuel à aller.
Pour ton rattrapage de Rage Against the Machine, rends-toi sur le blvd.fm et l'application mobile.
102.1 Marceau Soir, présenté par Voyage Aquaterra Lévis, Québec. Visitez la nouvelle agence de Québec. Maintenant, 2 adresses pour vous servir, boulevard Bastien à Québec et avenue Taniata à Lévis. Marceau Soir, présenté par Voyage Aquaterra Lévis, Québec. Visitez la nouvelle agence de Québec. Maintenant, 2 adresses pour vous servir, boulevard Bastien à Québec et avenue Taniata à Lévis.
À Boulevard, on est une gang de tripeux. Tripeux de musique, tripeux de sport.
Listen all you New Yorkers.
Donc on t'envoie vivre le rêve dans la grosse pomme pour un rock'n'pop.
Oh, 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 here we go.
La partie rock, un show de Jimmy Eat World et de Fall Out Boy.
Le côté poc, une game des Rangers. Pis tout ça au légendaire Madison Square Garden. C'est comme gagner sa résidence à New York City, baby!
Chaque jour, reste à l'écoute et note au blvd.fm l'heure à laquelle tu entends une toune de Fall Out Boy.
Gagner ton trip pour aller les voir en spectacle et assister à une partie des Rangers à New York comprenant hébergement et transport. Boulevard 102 et La Poutinerie, fier partenaire de tes trips de Rock and Pop.
La Poutinerie, la référence en poutine à Québec.
Comme tout le monde, Accommodation Chaloux a de la misère à résister au charme de l'automne. Pour un temps limité, viens t'équiper en bière à la citrouille. Accommodation Chaloux sur Instagram et Facebook.
Chez Toyota, on construit des camions de qualité en pensant à vous. Parce que tout le monde a besoin d'un ami qui a un camion. Encore mieux si c'est un Toyota qui a gagné le prix de la meilleure valeur résiduelle du Canadian Black Book. Alors quand sonne l'inévitable appel à l'aide, montez dans votre camion primé. Parce qu'avoir un ami comme vous, ça aussi, c'est gagnant. Quand c'est l'heure de se retrousser les manches, c'est l'heure Toyota. Découvrez le Tacoma chez votre concessionnaire Toyota et voyez nos offres sur achetezmatoyota.ca.
Chez Lunetterie Bélan, on vous offre la même chose qu'ailleurs, mais pour moins cher. Magasiner chez nous, ça veut dire que vous aurez des nouvelles lunettes sans réduire votre budget resto. Prenez soin de vos yeux sans vous priver. Lunetterie Bélan, service, qualité, bas prix.
Trop de diable.
Rendez-vous à langue-du-diable.com pour les détails.
Sanivac offre ses services dans la ville de Québec. Choisissez Sanivac, une entreprise familiale depuis 1961. Expert en location de toilettes portatives et roulottes sanitaires, vidange de trappes à graisse, hydroexcavation, nettoyage d'égouts, déblocage et pompage en tout genre. Choisissez Sanivac. Avec plus de 15 000 toilettes portatives, 500 employés qualifiés, 300 camions et 8 succursales, Sanivac possède l'inventaire pour vous offrir un service qui dépassera vos attentes. Travaillons ensemble. Choisissez Sanivac.
Si vous vous dites « me semble que ça fait longtemps que je suis allé dîner au charbon », moi je vous réponds « me semble que ce serait le temps d'y retourner ». Du mardi au vendredi, venez dîner avec vos amis, vos collègues, vos clients. Le classique des classiques, c'est le Charbon Steakhouse. Garde du palais.
Saviez-vous que le Mazda CX-5 a remporté plus de 100 récompenses internationales au cours des 12 dernières années? Eh oui, il a en plus été reconnu l'un des meilleurs choix de sa catégorie selon Protégez-vous. Et le plus beau dans tout cela, c'est qu'il est sans cesse amélioré année après année. Profitez de plus de 12 ans de raffinement et de perfectionnement du Mazda CX-5 avec la traction intégrale de série, 2 ans d'essai des services connectés Mazda et la garantie à kilométrage illimité. Visitez votre concessionnaire Mazda dès aujourd'hui.
L'application Boulevard. Dans une poche près de chez vous. Poche de jeans. Poche de shorts. Puis même ta poche de hockey. Appelez, textez, votez, réécoutez. L'app Boulevard 102.1. C'est plus que du rock. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
Alors voilà, c'est ce qui termine notre émission. On espérait que vous ayez passé un bon 60 minutes en notre compagnie avec Martin Bourget, chroniqueur chasse-pêche. Il sera d'ailleurs de retour demain dans Marceau le midi. Si vous avez des questions, vous pouvez me les transmettre sans aucun problème. Pour ce qui est de ce soir et cette nuit, à la météo, à la mer à Théo, ce sera des nuages pour ce soir avec 30 % de probabilité d'averse au cours de la nuit, minimum de 8. On s'en fout, on sera couché. Demain, jeudi, alternance de soleil et nuages avec un max de 14. Vendredi, ce sera nuageux avec 60 % de probabilité d'averse, maximum de 14. Et pour l'instant, pour ce qui est du week-end, samedi, ce serait les averses avec un maximum de 13. Et dimanche, ce serait nuageux avec un maximum de 9 degrés. Je vous salue. On se dit à demain, 11 h pour ce qui est de Marceau le midi. Dans quelques minutes, ce sera les podcasts. Merci d'avoir été là. Bye-bye.
Marceau le soir.
Marceau Soir, présenté par Voyage Aquaterra Lévis, Québec. Visitez la nouvelle agence de Québec. Maintenant, deux adresses pour vous servir, boulevard Bastien à Québec et avenue Taniata à Lévis.
Vous souhaitez réorienter votre carrière?
Votre jeune est perplexe face à son choix de métier ou de profession?
Vous avez des questions et savez pas par où commencer?
Boulevard 102.1 vous invite à la 29e édition du Salon Carrière Formation de Québec à Exposité. Cette année, plus de 200 exposants du monde de l'emploi et de l'éducation seront au rendez-vous afin d'échanger avec les étudiants et les chercheurs d'emploi.
Du 19 au 21 octobre, faites un choix pour votre avenir. Entrée gratuite.
SalonCarrièreFormation.com.
Succombez à la fraîcheur des tartares couteaux avec des formules 4 à 7, jeudi des dames et mercredi à volonté. Couteau Beauport, Neuchâtel et Saint-Joseph, les plus grosses portions de tartare en ville.
Marc Dupré a testé le moteur Turbo Max du GMC Sierra 1500.
Ouais, d'ailleurs, je pars pour le Chalet en fin de semaine puis j'aimerais peut-être ça encore le tester. Je vous le ramènerai après, ou l'autre semaine d'après, ou l'autre d'après. OK, bye!
Besoin d'un camion pour vos nouveaux projets? C'est le temps de passer au GMC Sierra 1500. Les membres de Costco admissibles obtiennent une prime de 750 $. Visitez votre concessionnaire GMC dès aujourd'hui pour l'essayer. Les conditions s'appliquent. Détails à offre-gmc.ca.
Au Cochon d'Inde, il y a de nombreuses traditions, comme celle de Nathalie.
C'était en février 1988. Oh, je m'en rappelle comme c'était hier. Le premier souper avec mon Rémi. Oh, j'étais assez nerveuse, là.
Mais ça a bien été, parce qu'aujourd'hui, ça fait 35 ans qu'on est ensemble. Et on vient encore ici chaque fois qu'on peut. Ils connaissent même nos noms.
Le Cochon d'Inde, l'hôte de vos traditions.
Le Salon du VR de Québec est de retour. Découvrez un grand nombre d'exposants qui dévoileront les nouveautés et primeurs du monde du VR et du tourisme. C'est l'endroit idéal pour venir rêver à vos prochaines escapades. Prévoyez l'achat ou la location de votre VR et soyez prêt pour votre prochaine saison d'aventure. du 26 au 29 octobre prochain, c'est un rendez-vous au Centre de foire d'Exposité. Pour plus d'informations, visitez lesalonsduvr.com. Le Salon du VR de Québec, une présentation de Leclerc Assurance, votre spécialiste en assurance VR qui deviendra Orbit Service d'assurance.
Boulevard 102, la radio de toutes, tout le monde, tout le temps.
La saison du VR, des décapotables et de la moto au Québec, ça passe en un claquement de doigts. Profitez de l'été jusqu'au dernier moment en remisant votre véhicule saisonnier en ligne avec SACLIC. Vous pouvez même planifier dès maintenant la date de votre remisage afin de profiter de votre véhicule sans aucun souci, quitte à la modifier si vous changez d'idée. Évitez de vous rendre dans un point de service. Pour faire son remisage comme ça, le chemin le plus court, c'est SACLIC. Un message de la Société de l'assurance automobile du Québec.
Wow!
Ouais, il y a des gens plus expressifs que d'autres, mais tous sont enthousiastes devant le service, les modèles et les prix de Montmagny-Nissan, Paquette-Nissan et Saint-Nicolas-Nissan. Financez votre Rogue SV à traction intégrale à partir de 3,99%.
Wow!
Ou embarquez dans la toute nouvelle Ariya 100% électrique en stock. En location, à partir de 5,49%.
Wow!
Détail pendant Nissan fait sensation. Chez Montmagny-Nissan, Paquette-Nissan et Saint-Nicolas-Nissan.
Boulevard.
Cet automne, Boulevard vous parle un peu plus.
Mais yolo!
Mais on vous abandonne pas non plus sur le rock.
C'est ça, rock.
Un genre de meilleur des deux mondes.
CV, Marceau le midi, Ravel dans le retour, Marceau le soir, sans oublier le Rock and Chill, Boulevard du Rock, il vole le map blanche.
Boulevard 102, tes sujets, ton rock, ta radio.
La face cachée du rock avec Patrick Langlois est présentée par Abba Extermination. Abba Extermination, c'est des centaines de commentaires positifs de la part de clients satisfaits. Abba Extermination, c'est aussi le gagnant du choix du consommateur cette année. Aucun doute pour les insectes, Abba Extermination, c'est la référence. Estimation gratuite, service garanti. Que ce soit pour fourmis, rongeurs, guêpes, araignées, punaises de lit, avec l'arrivée du froid, les rongeurs et les insectes cherchent à entrer à l'intérieur de la maison. Pour éviter tout problème, demandez dès maintenant un traitement préventif ou contactez ABBA si vous vivez un problème présentement, une entreprise de Québec qui emploie des gens de Québec, 418-666-6667 ou au abbaextermination.ca.
Lorsque le public retourne paisiblement à la maison, la magie continue d'opérer à l'envers du décor. Pat Langlois vous présente les artistes qui œuvrent dans la face cachée du rock.
Présenté par ABBA Extermination. Le froid s'amène, mais les bébites restent. N'attendez pas et contactez le choix du consommateur. Estimation gratuite, service garanti. abbaextermination.ca.
Allô?
Un single d'un bord, un single de l'autre.
C'est hot!
And there we go! Anne-Marie!
Salut!
Je suis vraiment, vraiment content de te recevoir dans la face cachée du rock. Sais-tu pourquoi?
Pourquoi?
Parce que j'ai comme mille et une questions que je peux pas te poser dans la vie de tous les jours.
Ben là, franchement...
Mais je peux pas te demander, hey, c'était comment les coulisses quand t'as interviewé Mariah Carey?
Oh mon Dieu!
Et on dirait que là, ben, ça me donne le droit de sortir toutes les questions que j'ai déjà eues.
Vive
parce
les
que,
podcasts!
Tu sais, dans le podcast, on aime ça, montrer toutes les coulisses oui. de ce que c'est être un artiste.
Oui.
On a parlé à Sébastien Lefebvre, on a parlé à des techniciens de scène, des techniciens de son. Puis évidemment, bien, tout artiste, dans son cycle de vie, il y a l'enregistrement, il y a les tournées, mais il y a toujours la tournée promo.
Ben oui.
Puis là, on va faire des entrevues. Puis les artistes sont un peu obligés de le faire, pas toujours heureux. Je me suis dit, OK, je peux demander à un artiste de me parler de la vie de coulisses des entrevues où je me suis dit, peut-être que celle qui en fait depuis 25 ans va être capable de me donner une histoire ou deux.
Mais surtout, assis dans les marches, c'est pas les marches de Musique Plus.
Mais c'est un beau clin d'œil.
Sérieusement, c'est froid sur les foufounes comme oui. pendant le temps. J'ai le goût de te dire qu'on est en direct de l'environnement. Mais c'est l'environnement de Weekend 99.5.
T'as commencé à Musique Plus en 1998.
Oui.
Évidemment, ben, comme moi, tu regardais Musique Plus.
Tellement.
Tu rêvais de travailler là. Te rappelles-tu la première fois que tu es allée et que toi, tu as vu les coulisses de ce que c'était?
Oui, vraiment. Ouais. De façon... Ça, je te jure, ça me fait de quoi. Moi, j'étais une vraie, vraie nerd de musique. À partir du moment où j'ai eu ma chambre au sous-sol, là, les plus beaux cadeaux que mes parents pouvaient me faire, c'était une petite télé, puis... Pas un, mais deux VHS.
Oui.
Parce que je me faisais des cassettes compiles de vidéos. Et là, je loguais tout ça. J'écrivais là, sur des feuilles mobiles dans un duotang noir que j'ai sûrement quelque part encore. À telle heure, il y a tel vidéoclip de Jean Leloup, pis ci, pis ça. Et c'est le premier artiste que j'ai voulu aller voir en chair et en os.
Oui.
Et donc, à 13 ou 14 ans, peut-être 13, j'ai pris le métro jusqu'à Berry. Et avec mon amie Elisabeth et mon amie Jasmine, on a fait la file pour aller voir Jean Leloup aux portes ouvertes de Musique Plus. Et je me souviens, à cette époque-là, j'ai pris une photo avec Philippe Femioux, j'ai rencontré Claude Rajotte. Je sais même pas, honnêtement, si j'ai vu Jean Leloup. Probablement que oui, mais tu sais, je pense que je me suis même pas rendue à Jean Leloup, puis j'ai juste fait comme « Wow! » Quel endroit extraordinaire! C'était l'ancien Musique Plus, oui. Le tout premier, celui qui était un peu plus à l'est que toi ou là, toi ou moi, on a travaillé. Mais ça a été donc un moment marquant parce que la prochaine fois que j'y ai remis les pieds, c'était pour mes auditions. 5 ans, 6 ans plus tard, il y a eu comme un espace de 3 ans où, bon, université oblige, t'as tes premières jobs. J'ai moins regardé Musique Plus,
ouais.
Mais j'ai toujours caressé le souhait, évidemment, de travailler là. Et donc, c'est comme ça que je me suis retrouvée en 98 à aller porter mon CV papier puis à appeler sans relâche pour travailler là.
C'est là que tu réalises que c'est pas aussi gros que ça en a l'air à la télé, hein?
Ben non, moi, je me souviens, là, après ça, en fait, c'est pas vrai. J'ai dit que la deuxième fois que j'ai mis les pieds là, c'était pour faire mon audition, mais c'est pas vrai, c'était pour me faufiler, pour porter mon CV. La magouille que j'ai faite, OK, c'est que j'avais une émission de radio étudiante, okay, sur la chaîne CISM, qui existe encore, la chaîne universitaire de Montréal. Et je devais recevoir IAM en entrevue à mon émission. Et pour toutes sortes de circonstances, ils n'ont pas pu se présenter à l'émission, mais ils m'ont dit, la compagnie 10 m'a dit, viens les interviewer à Musique Plus.
Okay.
Dans ma tête, là, c'était comme, on t'ouvre grand les portes du palais.
On roule les caméras.
Et oui, j'en revenais pas. Là. Moi, je disais comme, ils devaient débarquer, ils devaient m'appeler au téléphone probablement, là, ou quelque chose de vraiment, tu sais, radio étudiante. Là. Et là, finalement, on me disait, non, non, viens avec ton enregistreuse. Fait que là, je me souviens, ma mère m'a dit, quand elle m'a vu partir, elle était comme, je t'ai jamais vu maquillée. Comme, j'étais très grunge comme ado. Et là, tout d'un coup, j'étais maquillée, j'étais cute, j'avais mon kit hip-hop et je suis allée rencontrer IAM. Et c'est là que je m'en suis servie pour me donner de la crédibilité. J'ai amené mon CV, évidemment, ouais. Puis j'étais comme, je suis pour interviewer IAM, mais en même temps, bof, je vous laisse mon CV.
Je pourrais travailler ici si vous voulez.
Si vous voulez, là, tu sais, il y avait là, 2 affaires d'écrit sur mon CV. Sauveteur et vendeuse de disques chez HMV en 3 affaires, ah, animatrice, oui, de radio étudiante. Mais ça a marché, puis c'est là qu'après ça, tout au long de l'été, de cet été-là, j'ai reçu des invitations de la part de l'équipe pour juste venir un peu en stage.
Okay.
Ils m'ont dit, hey, on reçoit Sean Lennon live, viens voir comment ça se passe. Après ça, j'ai fait un screen test. J'étais poche. Ils m'en ont fait faire un autre parce que j'avais bien réussi le test musical et écrit. C'était tout un processus, mais c'est vrai que ça avait l'air. Mais tu dis que ça a l'air moins impressionnant. Non, moi, je trouve que ça grouillait vraiment plus, ouais, que ce que j'avais imaginé, mais effectivement, que c'était plus petit. C'était moins.
Ouais. Il y avait une certaine créativité, justement, de tous les shots, que, tu sais, tout avait l'air plus grand, en tout cas, à mes yeux, ouais, à moi.
Après ça, t'es comme, ah, c'est juste des marches.
Oui, c'est ça, exactement. Ah, puis un autre angle, puis un autre angle, puis ça bouge de ce bord-ci. Toi, tu voulais être là pour animer ou pour interviewer des artistes? Parce que c'est vraiment les deux côtés de cette job-là.
Bien, moi, je voulais faire tout. Moi, je voulais faire les deux. C'est sûr que animer, j'aimais ça, mais... Puis c'était... En fait, c'est ce qui est drôle, c'est que j'étais probablement meilleure à l'animation au début qu'à l'entrevue, parce que l'entrevue, j'avais vraiment pas d'expérience. J'avais genre 5 entrevues que j'avais réalisées pour mon émission de radio étudiante,
oui,
mais des heures d'animation, parce que mon boulot à l'époque était d'animer le magasin de disques HMV. Je le sais, OK. Premièrement, un magasin de disques, c'est un concept complexe. Mais on vendait des disques et les gens se déplaçaient avec 20 $ pour en acheter. Et en plus de ça, j'avais un gros DJ booth,
ouais,
puis je mettais des tunes et j'étais là pour dire « Cette chanson d'Alanis Morissette se retrouve dans le rayon des CD, tu sais. » Fait que j'avais des heures, je faisais ça 8 heures par jour. Fait que animer puis présenter des chansons, ouais, c'était comme ma pratique. Puis j'étais payée salaire minimum pour faire ça.
Puis ta première entrevue?
À Musique Plus.
Est-ce que tu te rappelles c'était qui?
Honnêtement, là, ça, c'est ce qu'on appelle un baptême de feu. Quand, justement, là, je travaillais encore au HMV, mais que j'espérais travailler à Musique Plus, j'ai un peu honte de le dire. Mon band préféré de toute l'histoire de cet été-là, c'était Korn.
OK.
OK. J'étais deep, deep, deep dans le rap rock. OK. C'est pas le fun de dire ça aujourd'hui en 2023. Mais.
Ouais, j'ai interviewé Jonathan Davis en genre 2019, je pense.
Ah ouais, hein?
Comme pseudo récemment.
Wow! Puis, je tripais sur Korn. C'était comme le band qu'on trouvait innovateur, au même titre que comme Rage Against the Machine. Ouais. Il faisait des sons qui se pouvaient pas aimer, là, des affaires qui se pouvaient pas. Et je trouvais vraiment qu'il y avait de quoi là, qui s'en venait avec leur 3e album, quelque chose d'aller de gros. première fois que je mets les pieds à Musique Plus en tant que qu'employée, ma directrice des programmes me dit, c'était un vendredi, elle dit « Tu vas commencer la semaine prochaine, mais elle me donne une enveloppe, il y a 25 $ cash dedans et un billet via rail. » Puis elle me dit « Tu vas aller demain à Toronto rencontrer Korn. Voici ton per diem. » C'était 25$. Et en fait, ton entrevue n'est pas vraiment bookée. C'est les gens de Much Music qui ont du temps avec eux, dans un magasin de disques, justement.
Oui.
Ils s'en vont faire une signature d'autographe. Autre concept étrange, les artistes allaient dans les magasins de disques signer des disques.
Il n'y avait pas de selfie.
Il n'y avait pas de selfie à l'époque. Tu prenais la signature de Monkey, de Korn sur un disque. Et elle me dit, ta job, ça va être de les attraper. Puis, ça se peut qu'on fasse un spécial de 30 minutes avec ça. Et donc, moi, j'ai jamais animé une journée à la télé. J'ai jamais rencontré de bandes internationaux, à part justement dans mon propre magasin, le magasin de disques, oui, où je travaille. Quand eux venaient faire des signatures, tu sais, j'avais vu Ricky Martin, les Spice Girls, mais tu sais, c'était comme serrer la main, bonjour, voici. Et là, j'avais la pression de rencontrer ce band-là qui était quand même assez notoire pour être pas super gentil avec les journalistes. Pas mal misogyne, respectait pas gros les filles. Puis là, moi, je voulais tout prouver tout ça. Et donc, je suis arrivée en train à Toronto. J'ai écouté l'album en copie sous embargo, oui, physique, pour la première fois avant tout le monde. Je